Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Dans cette émission, nous allons nous rendre vers les Émirats Arabes Unis en compagnie de mon invité Jean-Robert Pitt de l'Académie des sciences morales et politiques pour nous parler tout particulièrement de l'implantation de l'Université Paris-Sorbonne dans ces Émirats. C'est une question qui avait fait débat et Monsieur Pitt, qui en est à l'origine, je puis le dire. Vous avez d'ailleurs mené toutes vos études à la Sorbonne, toute votre carrière à Paris-Sorbonne. Vous avez été président de Paris-Sorbonne de 2003 à 2008 et Paris-Sorbonne Abu Dhabi jusqu'à 2008, effectivement. Et en 2009, vous êtes président de la Société de géographie et il ne faut pas l'oublier, du Festival international de géographie à Saint-Dié-les-Vosges. Je sais que vous y tenez beaucoup.
Oui, parce que c'est une grande manifestation qui attire 50 000 personnes chaque année, tous les premiers week-ends d'octobre.
On en fera une émission, c'est promis. Pour l'instant, nous allons nous tourner vers cette partie du Golfe que l'on appelle les Émirats Arabes Unis. Et je crois que vous pouvez au moins nous dire quels sont ces Émirats. S'ils sont unis, c'est qu'il y en a plusieurs.
Quand les Français utilisent l'expression « les Émirats », on pense souvent à tous ces petits pays qui sont sur la côte du golfe persique ou arabo-persique, comme veulent dire certains. Enfin, normalement, c'est le golfe persique, le golfe arabe étant plutôt la mer Rouge. Et donc, on pense bien sûr aux Émirats Arabes Unis, mais aussi au Koweït, au Qatar, à Bahreïn, voire au Sultanat d'Oman, qui sont des petits pays qui ont comme point commun d'abord d'être gouvernés par des familles princières et d'avoir un peu de richesse liée au pétrole ou beaucoup de richesse. En revanche, les Émirats Arabes Unis, c'est une fédération de 7 émirats qui, jusqu'en 1971, étaient indépendants. Le principal et le plus grand et le plus riche étant Abu Dhabi, où se trouve la capitale d'ailleurs de la fédération. Ensuite vient la ville très célèbre par son gigantisme et par un certain nombre d'opérations d'urbanisme spectaculaires qui est Dubaï, qu'on appelle parfois capitale économique. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette expression. C'est une grande ville sur le plan de l'économie, mais sûrement plus fragile. Peut-être on aura l'occasion d'y revenir qu'Abu Dhabi. Et puis, il y en a 5 autres. Alors, moins connus, il y a Sharjah, qui est au nord de Dubaï. Il y a Ajman, il y a Fujairah, il y a Ras El Khaimah, le cap de la tente, et Umm Al Qarwin, qui est un des plus petits. L'ensemble ne faisant, c'est 7 Émirats, que 82 000 km².
Et combien d'habitants?
Très difficile à dire. Officiellement, en 2008, on estime à 4 600 000 habitants, mais il y a énormément d'étrangers. Et les Émiriens, ou Émiratis, comme on dit, n'aiment pas trop savoir exactement qui est réellement de nationalité émirienne et qui habite aux Émirats et qui n'est pas de nationalité, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travailleurs étrangers, des riches comme des pauvres.
Alors cette fédération, elle a été créée par la volonté d'un cheikh qui véritablement a eu une vision, enfin un avenir, une vision de l'avenir. Ce cheikh Zayed, vous pouvez nous en parler.
Zayed,
vous pouvez nous en parler.
Oui, le cheikh Zayed Al Nahyan, qui était un homme du désert, hein, qui est né sous la tente. Quand on voit le seul bâtiment un tout petit peu ancien qui existe encore à Abu Dhabi, et son palais qui existait avant l'indépendance et qui est un fortin en terre battue avec des tourelles, des petites tours sur les côtés qui ne payent vraiment pas de mine quand on voit les bâtiments qui ont été construits depuis. Alors, Cheikh Zayed était le chef d'une grande tribu nomade, les Al-Nahyan, dont le siège n'était pas d'ailleurs à Abu Dhabi, mais une grande oasis de l'intérieur, pas très loin de la frontière d'Oman, qui s'appelle Al-Ain, la source. Et c'était quelqu'un à la fois de très cultivé, de très ouvert, de très jovial aussi, qui avait le contact très facile et qui pouvait parler très librement avec tous les chefs d'État qu'il a pu rencontrer. Et comme il est resté au pouvoir jusqu'en 2004, donc de 1971 à 2004, il a eu l'occasion de rencontrer la terre entière. Et ce d'autant plus que son pays était en train de devenir un des grands pays pétroliers, par conséquent une puissance qui comptait et qui compte au Moyen-Orient, d'autant plus que ce petit pays très riche et coincé entre deux immenses pays, eux aussi très riches, mais qui ont parfois des visions un peu hégémoniques sur la région et sur le monde musulman, qui sont d'une part l'Arabie Saoudite, qui est située à l'ouest, et d'autre part, de l'autre côté du Golfe, mais à une très faible distance, l'Iran, qui est situé à l'est. Ce cher Zayed a obtenu l'indépendance de son émirat et des autres émirats, puisque c'était un protectorat anglais. Hein, il faisait partie de ces états dits de la trêve. Il faut rappeler que Truchel State, en anglais, c'est un ensemble d'émirats qui, en 1853, a signé un accord avec l'Angleterre pour arrêter la piraterie qui sévissait beaucoup, beaucoup dans le golfe. On aimerait qu'un tel accord soit signé un peu plus au sud, du côté de la Somalie, parce qu'on n'en est pas encore là. En tout cas, donc, 1853, les émirats, très très pauvres à l'époque, hein, c'était, les plus riches étaient les gens de Dubaï, parce qu'ils faisaient le commerce des épices et des perles. Là, il y a une vieille tradition de commerçants. Mais Abu Dhabi était un état nomade, enfin d'état, oui, un émirat nomade avec des frontières floues et dans lequel on vivait essentiellement d'élevage du chameau et des palmeraies, comme au Sahara, comme dans beaucoup de pays de cette région du monde. Et puis donc rapidement, à la fin du 19e siècle, cet ensemble d'émirats est passé sous le contrôle direct de l'Angleterre, donc rentré dans l'empire colonial britannique. Et l'indépendance donc a été obtenue en 1971. Et c'est 6 émirats qui se sont fédérés ensemble sous l'impulsion du cheikh Zayed Al Nahyan. Et l'année suivante, en 1972, l'émirat de Ras Al Khaimah, le plus au nord, est rentré dans cette fédération. Ils sont donc maintenant 7, avec un président qui est, d'après la constitution, l'émir d'Abu Dhabi. Donc le cheikh Zayed est mort en 2004. C'est son fils, cheikh Khalifa Al Zayed Al Nahyan, qui est le chef de l'État actuellement et qui est l'homme puissant de l'ensemble des Émirats, et un vice-président qui est l'émir de Dubaï, Cheikh Makhloum, que l'on voit beaucoup parce qu'il est très, il voyage énormément, et comme il a voulu choisir un modèle de développement pour son émirat très, très ouvert sur le monde, donc lui est très très connu. Et puis il y a un prince héritier qui est le chef des armées, je crois qu'il est vice-président, je ne sais plus quel est son titre exact, mais en tout cas c'est lui qui est l'homme fort du point de vue militaire, et qui est le frère du Cheikh Khalifa, l'émir d'Abu Dhabi, et qui s'appelle Cheikh Mohammed Al Zayed Al Nahyan, puisqu'on met toujours, vous savez, dans le monde arabe, les parents et les grands-parents, et qui, lui, est quelqu'un de très éclairé et qui a un véritable projet, comme son père, pour l'ouverture de son émirat, Abu Dhabi, mais aussi de l'ensemble des émirats.
Alors, qui, justement, a eu cette idée d'implanter dans cette région la Sorbonne? Alors, la Sorbonne entre guillemets, parce qu'il va falloir que vous nous expliquiez exactement que ce n'est pas tout à fait la Sorbonne.
Si vous me permettez, c'est un tout petit peu long, je voudrais vous lire un extrait d'un discours du cheikh Zayed qui est tout à fait intéressant et qui a été publié dans un ouvrage de Mohamed Al-Fahim qui s'appelle « De la pauvreté à la richesse, l'histoire d'Abu Dhabi ». Et ça explique très très bien ce que le cheikh Zayed a voulu avant même donc, l'implantation de la Sorbonne pour le développement de son État. Et on comprend ensuite ce qui se passe avec la Sorbonne, le Louvre et toutes sortes d'autres aventures très, très étonnantes dans cette région du monde. Je vous cite le livre de Mohamed Al-Fahim. « La possibilité qui nous est donnée de poursuivre des études supérieures nous permettra certes également de participer davantage aux affaires du monde arabe, d'influencer la politique et de modifier la vie des habitants du Moyen-Orient. Atteindre des niveaux élevés d'instruction nous permettra de relever les défis posés dans le cadre de nos relations avec les pays et des partenaires du Moyen-Orient et dans le monde. Dans le futur, nous ne devrons plus n'être que de simples bailleurs de fonds, ce que souvent sont un peu ces pays et ils apparaissent comme tels. Ils ont beaucoup, beaucoup d'argent du fait du pétrole et donc on fait appel à eux pour renflouer les entreprises, acheter des entreprises, investir à l'étranger, etc. Donc, ne plus n'être que de simples bailleurs de fonds, notre rôle doit aller bien au-delà. Nous devons être acceptés pour ce que nous avons à offrir en tant que partenaires égaux dans le processus de prise de décision, plutôt que d'être simplement relégués à n'être que des pourvoyeurs d'argent. Et je trouve qu'écrire ça dans les années 80, c'est très très visionnaire. Nos dirigeants et nos intellectuels peuvent apporter beaucoup. Ils doivent être acceptés en fonction de leurs compétences, de leur sagesse et de leur habileté. L'éducation nous permettra d'accéder au rang que nous méritons réellement. Notre société est aujourd'hui cosmopolite, des personnes de différentes races, couleurs et croyances travaillent et vivent côte à côte. Nous devons respecter les croyances et les désirs des autres, tolérer les différentes cultures et nationalités et être plus ouverts à la diversité. Eh bien, je dirais que c'est un discours qu'on aimerait entendre chez les dirigeants de l'Iran aujourd'hui, chez les dirigeants de l'Arabie Saoudite, dont certains le pensent, mais ne peuvent pas le dire ou n'osent pas le dire, chez les dirigeants, citons des noms, du Hamas, du Hezbollah, des talibans, du Pakistan. On aimerait que dans ces pays musulmans, et qui trop souvent choisissent la voie, ou certains de leurs membres et de leurs dirigeants choisissent la voie de l'extrémisme et par conséquent s'attirent des critiques qui sont injustifiées d'une manière générale, mais très justifiées dans leur cas, c'est-à-dire de cette association entre l'islam et des voies peu recommandables au regard des droits de l'homme, de la démocratie, qui sont des voies que j'appellerais, moi, très clairement totalitaires, avec un fondement religieux. Mais il est clair que c'est une mauvaise interprétation de l'islam qui, dans aucun texte du Coran ou même des commentaires du Coran, on ne lit des discours tels que ceux de M. Oussama Ben Laden. C'est vraiment une interprétation extrémiste, mais comme on en trouve dans toutes les religions, y compris dans le christianisme, il y a eu aussi et il y a sûrement encore aujourd'hui des interprétations extrémistes des textes sacrés.
Mais les autres ont moins droit à la parole, justement. Alors, ceux qui prônent l'ouverture, dans l'islam, la tolérance ont moins droit à la parole.
Pardon de vous contredire, mais il y a beaucoup de musulmans, y compris en France, qui sont de nationalité française, qui sont des vrais croyants, pratiquants, et qui pratiquent avec beaucoup de foi et de sincérité leur religion, et qui sont des gens extraordinairement ouverts sur la démocratie, sur les droits de l'homme et de la femme, sur le monde et sur le dialogue interculturel. Il y a même des gouvernements entiers qui sont tournés vers ça. Je pense par exemple au gouvernement éclairé de la Jordanie, pays qui est moins riche que d'autres, mais où il y a un gouvernement et une famille royale, pourtant descendante directe du prophète, d'après la tradition, et qui tient des propos sur le dialogue interculturel extraordinaire qu'on a entendu, par exemple, au moment de la récente visite du pape Benoît XVI à Amman. J'ai trouvé ces discours provenant de membres de la famille royale extraordinairement ouverts et tolérants au bon sens du terme, pas au sens de Claudel. Vous savez qui disait « la tolérance, il y a des maisons pour ça ». Ce n'est pas du tout dans cet esprit-là que les choses se disent dans ce pays. Mais au Liban, il y a des quantités de musulmans extraordinairement ouverts au dialogue. Dans tous les pays musulmans, il y en a en Afrique du Nord et partout.
Revenons à Abu Dhabi et à son
pourquoi Abu Dhabi d'éducation. Pourquoi fait-il ce choix? Je pense que d'abord, c'est parce que la voie de l'islam qui a été choisie par les Émirats arabes unis, et en particulier par Abu Dhabi, c'est une voie sunnite et de l'école dite chaféite, qui est une école parmi les plus ouvertes, justement, sur ce dialogue. Et le cher Zayel, qui était un très bon connaisseur du Coran et d'un très grand croyant, et la mosquée qui est son mausolée actuellement est absolument extraordinaire, tenait beaucoup, beaucoup à ce dialogue. Et donc, pour lui, comme pour ses enfants, comme pour ses fils qui sont au pouvoir aujourd'hui, et comme pour pratiquement tous les autres émirs des sept Émirats arabes unis, l'idée, c'est que ce pays doit se développer dans le monde, grâce à sa richesse, qui lui est alors donnée par le ciel, tombée du ciel, si je puis dire, même si ça vient de sous la terre, mais cette richesse doit servir aussi au développement de la population, les hommes et les femmes, et dans un esprit de dialogue interculturel. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que d'avoir misé là-dessus. Donc, je vais peut-être raconter l'histoire de cette implantation de la Sorbonne, parce que j'en ai été moi-même le premier surpris quand ça m'est tombé du ciel aussi, d'une certaine manière, par l'intermédiaire de l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Paris, qui, il y a quelques années, c'est donc il n'y a pas très longtemps, c'était en 2005, m'a invité à faire un voyage aux Émirats arabes unis. Puis, à mon retour, m'a dit, ben voilà, je voulais vous demander si vous accepteriez, et c'était bien sûr à la demande de son gouvernement, que la Sorbonne, Paris-Sorbonne, c'est l'université que je présidais, puisse s'implanter aux Émirats arabes unis. Et donc, très grande surprise pour moi, bien sûr, vous vous en doutez, et pour les quelques collègues à qui j'en ai parlé au départ. Mais quand j'ai vu que les conditions qu'on nous offrait étaient non seulement des conditions très avantageuses sur le plan financier, puisque nous ne pouvons évidemment pas faire d'investissement compte tenu de la grande misère des universités françaises, donc l'argent venait de la partie émirienne, mais tout l'enseignement et toute la mise en place intellectuelle de cette université nous est confiée, avec donc une totale liberté d'enseignement, les mêmes programmes qu'en France, les mêmes enseignants, ce sont les enseignants qui se déplacent, soit pour des contrats de 2 ans, soit pour des séjours d'une semaine ou deux. Aucune censure sur la bibliothèque, donc nous avons pour le moment 50 000 livres à la bibliothèque, il y en aura bientôt beaucoup plus. Dans le contrat que nous avons signé, la mixité est inscrite, ce qui est plutôt rare au Moyen-Orient. Et un autre concept encore infiniment plus rare au Moyen-Orient, c'est la laïcité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de salle de prière sur le campus et que ça a été discuté avec la partie émirienne sans aucun problème. Et bien entendu, il ne s'agit pas d'être contre l'islam ou de tenir des propos contre l'islam, mais on a dit très clairement à tous les étudiants, écoutez, vous avez plusieurs mosquées dans les environs du campus, aux heures de prière, vous pourrez vous y rendre si vous voulez, mais pas sur le campus, parce que c'est un lieu justement d'ouverture sur toutes les religions. Donc si on ouvrait une mosquée, même si dans votre pays 99% des Émiriens sont musulmans, il faudrait peut-être ouvrir aussi une église, une synagogue, etc. Donc nous avons préféré utiliser le même principe qu'en France, c'est-à-dire on parle des religions, on respecte les religions, toutes les religions, mais on ne pratique pas les religions sur le lieu du campus. Donc c'est ce concept de laïcité qui est très français, très, si difficile à comprendre partout dans le monde, a été appliqué sans difficulté aux Émirats. Et le résultat, c'est qu'il y a aujourd'hui 400 à 500 étudiants qui apprennent en français, qui apprennent toutes les disciplines de Paris-Sorbonne, qui sont des disciplines littéraires.
Donc c'est sciences humaines.
La littérature, les langues, l'histoire, la géographie, la philosophie, l'archéologie, etc., la communication, l'aménagement du territoire. Donc toutes ces disciplines sont enseignées en français. Et pour ceux qui arrivent à l'université sans connaître le français, il y a une année préparatoire de français intensif. Et donc au bout d'un an, ils sont capables de s'inscrire en première année d'université. Et les étudiants viennent pour un tiers des Émirats et pour les deux autres tiers de tous les pays de la région, voire du monde entier, puisqu'il y a 40 nationalités.
40 nationalités qui finalement apprennent le français d'abord et sont enseignées après français. Donc c'est une université française qui s'est implantée.
C'est une université française gérée par un contrat qui juridiquement est un contrat émirien. C'est tout à fait particulier.
C'est une proposition très originale.
Très très originale qui, je dois vous le dire, a fait quelques vagues au sein de mon université parce que tout le monde n'était pas prêt à se lancer dans cette aventure. En général, ceux qui étaient contre et qui y vont pour enseigner reviennent en général assez conquis parce qu'ils ont de bons étudiants, qu'ils voient qu'ils
sont
très motivés, des conditions idéales de travail, que sur le plan financier, ce n'est pas désagréable, il faut le dire, et qu'ils travaillent dans des conditions qu'on aimerait avoir dans nos universités. Mais évidemment, il faudrait avoir les moyens que nous avons là-bas.
Alors, quand vous dites, Jean-Robert Pitt, pardon de vous couper, mais quand vous dites Paris-Sorbonne, est-ce que vous pouvez nous aider à nous démêler un petit peu
c'est compliqué,
Paris-Sorbonne, parce que...
Ça fait l'objet de bien des débats, bien des querelles. Il faut... Là, vous me donnez 2 heures pour expliquer ça?
Non, je vous donne 3 minutes avant qu'on marque une courte pause.
Voilà, donc en 1969-70, quand il y a eu la recomposition des universités parisiennes après les événements de 68, finalement, il s'est créé dans Paris intramuros 8 universités pluridisciplinaires. L'ancienne faculté des lettres s'est partagée en deux, principalement en 2 morceaux qui ont constitué Paris 3 et Paris 4. Le premier président de Paris 4, qui s'appelait Alphonse Dupron, un très grand historien, j'étais moi étudiant à cette époque et membre du conseil, je l'entends encore dire, nous ne sommes pas du bétail, nous n'allons pas nous laisser appeler par un numéro. Donc nous allons choisir un nom et lui aurait souhaité Sorbonne tout court. Ça a fait un petit peu de vague. Le ministère et le recteur ne souhaitaient pas que le mot Sorbonne soit récupéré par Paris 4. Donc, ça a été Université de Paris, trait d'union, Sorbonne. Donc, Paris-Sorbonne, c'est Paris 4. Alors, du coup, quelques années plus tard, Paris 3 s'est dit, nous aussi, on en veut. Mais comme nous sommes modernes par rapport à Paris 4, on va s'appeler la Sorbonne Nouvelle.
Donc
Université de la Sorbonne Nouvelle. Et puis, Paris 1, qui était l'université regroupant des lettres et sciences humaines, du droit et de l'économie, a dit, nous, comme notre siège est au Panthéon, et que nous avons des locaux en Sorbonne, nous allons nous appeler l'université Panthéon-Sorbonne. Donc ce sont les 3 universités qui ont le nom Sorbonne dans leur appellation officielle. Les autres, c'est Paris 2, Panthéon-Assas, Paris 5, Paris Descartes, Paris 6, Pierre et Marie Curie, Paris 7, Denis Diderot, et Paris 9, Dauphine. Paris 8 étant Saint-Denis à l'extérieur.
Et donc, l'université qui est implantée à Abu Dhabi, c'est Paris 4.
Alors, c'est Paris 4 et ça s'appelle Paris-Sorbonne Abu Dhabi, PSUAD, c'est le titre officiel. Mais nous avons passé un accord avec Paris Descartes, Paris 5, puisque les Émiriens souhaitaient qu'on enseigne aussi le droit et l'économie, qui n'existent pas à Paris-Sorbonne. Donc, Paris Descartes traite les matières juridiques et économiques et la gestion.
Donc toutes les matières dans cette mouvance de langue et civilisation sont enseignées à ce Paris-Sorbonne Abu Dhabi. Qu'est-ce qu'on espère pour l'avenir? Combien d'étudiants? Là, vous avez dit 400 actuellement. Est-ce que ça va s'agrandir?
Dans le contrat, on avait parlé de 2000. Compte tenu de la taille du campus qui est en cours de construction et du rayonnement de cette université, je crois qu'on peut espérer en avoir beaucoup plus dans 10 ans. Je pense que d'ici 4 ans, nous pourrions arriver à 2000 étudiants, surtout si nous ouvrons des masters et surtout si nous ouvrons des diplômes professionnalisants du niveau master. Là, nous attirerons du monde. Pour le moment, on a la licence, 3 années de licence et 2 masters professionnels qui sont l'un d'aménagement et d'urbanisme, très important dans la région, et l'autre de communication, fait en collaboration avec le CELSA, qui est une école interne à Paris-Sorbonne. Je pense qu'il faudrait ouvrir d'autres, en particulier en langues étrangères appliquées, puisque nous développons beaucoup les langues. Songez qu'on apprend à des arabophones, en français, l'allemand, l'espagnol, l'italien, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire.
On ne peut pas souhaiter mieux pour le français.
Donc on fait des trilingues, quadrilingues, oui, parce que tous parlent l'anglais, c'est la deuxième langue de ce pays, et en plus ils apprennent le français et une autre langue encore.
Quelle est la proportion des garçons et des filles dans cette université ?
Oh, c'est à peu près moitié-moitié. Il y a un peu plus de garçons en première année parce que les écoles militaires souhaitent que les futurs officiers apprennent aussi les humanités, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire aussi. Mmh. On aimerait que ce soit la même chose en France. Après, c'est très, très équilibré. Et surtout, il y a une excellente atmosphère, ça nous inquiétait un tout petit peu au départ, cette mixité. Mais il y a une excellente atmosphère. Il faut voir les étudiants au moment des repas à la cantine, enfin au restaurant universitaire. C'est tout à fait intéressant de les voir, alors que ce n'est pas très habituel au Moyen-Orient de voir des garçons et des filles parler ensemble, manger ensemble. Ça commence, mais c'est très timide. Là, c'est un lieu, c'est une sorte de laboratoire de la vie en commun. Seules les résidences universitaires sont séparées. Là, nous respectons les traditions sociales de ce pays.
Alors, on espère aussi voir, je crois, le Louvre s'implanter à Abu Dhabi. Ça aussi, ça a fait beaucoup de soucis. Qu'en pensez-vous ?
On a beaucoup. Moi, je suis enthousiasmé, si vous voulez. La Sorbonne, j'étais enthousiasmé parce que je présidais cette université et que je voyais difficilement les horizons, hein, enfin du moins l'expansion internationale de notre université, compte tenu de la forte concurrence et des moyens très importants qu'ont les universités américaines ou japonaises. Ça, c'est un ballon d'oxygène fantastique pour nous. Le Louvre, quand j'ai appris qu'il y avait ce projet, j'ai été immédiatement enthousiasmé. Mais comme vous le savez peut-être, il y a eu une forte résistance de la part d'un certain nombre de conservateurs de musées en France, de professeurs d'histoire de l'art et même de mes confrères, je crois, de certains, pas tous, mais certains de mes confrères, de l'Académie des Beaux-Arts. Aujourd'hui, tout cela est oublié parce que le président de la République a posé il y a quelques jours la première pierre du nouveau Louvre qui sera construit, qui est en cours de construction par Jean Nouvel. Et c'est un projet extraordinaire, je dirais aussi révolutionnaire que peut l'être une université francophone, libre et ouverte comme la nôtre. Parce que si l'on veut que ces pays s'ouvrent, ce ne sera évidemment pas par la force. Ce ne sera évidemment même pas par le dialogue politique au plus haut niveau entre les chefs d'État. Il faut que la population elle-même se sente faire partie, avec toute sa culture respectueuse des autres, mais faire partie du monde. Et la mondialisation, c'est la connaissance de l'autre, la connaissance des œuvres d'art fait partie de cette connaissance de l'autre. Et je crois que l'ouverture du Louvre est là aussi d'une audace extraordinaire de la part de ce pays. Songez que pour la cérémonie de la pose de la première pierre la semaine dernière, une exposition temporaire avait été organisée et que les Émiriens avaient voulu qu'à l'entrée de cette exposition se trouvent deux objets qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans un musée au Moyen-Orient. L'un, c'est un Bouddha de pierre, je crois, de Thaïlande, extraordinaire, et du 6e ou 7e siècle, magnifique. Et l'autre, un grand Christ en croix, sculpté en bois, italien, du 16e siècle. Et je trouve que...
C'est symbolique.
C'est très symbolique de cette idée d'ouverture, parce qu'ils auraient pu mettre quelques très beaux objets d'art islamique. Pas du tout, ils ont voulu montrer que ce Louvre, c'est le lieu de toutes les cultures, de toutes les formes d'art, et pas uniquement de l'art islamique, qui, vous le savez, a une particularité, c'est qu'il est non figuratif, alors que ces deux objets sont des objets figuratifs. Donc ça représente, c'est bouleversant comme ouverture sur le monde. Donc je crois que ça nous donne une leçon, à nous Français, à nous Occidentaux, qui sommes souvent pétris de bonne conscience, qui sommes sûrs d'avoir inventé la démocratie, les droits de l'homme, la haute culture, etc., et qui avons tendance un tout petit peu à prendre les gens du Golfe pour des marchands de pétrole sans assez de culture, en tout cas pas digne de la nôtre. Et bien, je pense qu'on a grand tort que beaucoup d'intellectuels de ces pays, et il y en aura de plus en plus, de plus en plus ouverts, ont des idées qui sont essentielles et extrêmement positives pour le monde de demain. J'ose espérer qu'on attirera bientôt des étudiants afghans, qu'on fera de la reconversion de talibans à Abu Dhabi, des étudiants pakistanais, des étudiants iraniens. Il y a déjà quelques étudiants iraniens, parce qu'il y a partout dans le monde musulman, chez les jeunes, un désir d'ouverture sur le monde et pas un désir de rejeter le monde. Ce sont, en fait, vous savez, il y a ce livre de Huntington très connu qui s'appelle « Le choc des civilisations » et je lisais ce matin, je crois dans un journal, je ne sais plus lequel, que ce qui est mortifère, ce n'est pas le choc des civilisations, c'est le choc des ignorances. À partir du moment où on connaît l'autre et l'ailleurs, on est beaucoup plus ouvert sur le respect. Et ça ne veut pas dire qu'on abandonne sa propre culture, sa propre foi. On peut très bien la conserver. On peut même en parler aux autres, mais on n'en parle pas de la même façon quand on sait que d'autres n'ont pas la même foi, n'ont pas les mêmes valeurs, n'ont pas la même culture, mais qu'on doit vivre ensemble sur la planète. Nous sommes tous sur la même galère et évitons que ce soit le radeau de la Méduse ou le Titanic. L'un des meilleurs moyens, c'est de s'ouvrir sur l'autre. Et puis, il y a un troisième projet français, c'est dire à quel point les Émiriens aiment la France. Le président de la République, la semaine dernière, a inauguré aussi quelque chose qui est absolument ahurissant dans cette région du monde, une base militaire française, alors qu'il y a bien sûr des bases américaines nombreuses sur place et dans les pays voisins. Mais c'est cette idée que, aussi de la part des Émiriens, ils ne veulent pas dépendre uniquement de l'Amérique. Ils n'ont rien, évidemment, contre l'Amérique qui est leur allié et qui est un partenaire économique, politique et militaire très important. Mais l'idée d'avoir d'autres partenaires et, comme on dit vulgairement, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier,
oui,
est quelque chose.
Ça remet à l'équilibre, bien sûr.
Ça met de l'équilibre et je crois que ça peut jouer un rôle très important, en particulier compte tenu de la position des Émirats. C'est regarder un atlas, chers auditeurs, face au détroit d'Ormuz, c'est-à-dire juste en face de l'Iran, à quelques encablures de l'Iran. Quand on décolle d'Abu Dhabi, on voit les côtes iraniennes quand il n'y a pas de vent de sable. Eh bien, je crois que ça peut jouer un rôle important parce que ça peut éviter le pire. Ce n'est pas une base pour attaquer, c'est au contraire une base pour empêcher tout excès de zèle de la part de tel ou tel pays de la région, l'Iran en particulier, il faut bien le reconnaître.
Pour l'instant, alors espérons que tous vos propos optimistes trouveront un écho.
Vous me permettez encore peut-être,
encore un petit mot,
j'ai encore
pour
le droit
conclure,
un tout petit mot.
Mais vous avez le droit.
Non, parce qu'on a beaucoup parlé de culture, mais je voudrais, vous allez peut-être me trouver trop enthousiaste vis-à-vis de ce pays, mais c'est vrai que c'est tellement étonnant ce qui se passe là-bas. Une des choses qui peut intéresser nos auditeurs, c'est de savoir aussi que, bien sûr, ce pays gagne beaucoup, enfin, surtout Abu Dhabi, l'émirat d'Abu Dhabi, beaucoup d'argent grâce au pétrole, mais qu'aujourd'hui, plus des deux tiers des revenus du pays proviennent des placements effectués avec l'argent du pétrole dans des entreprises du monde entier. Donc beaucoup d'entreprises françaises, américaines, japonaises, chinoises, de tous les pays du monde, dépendent des capitaux des Émirats. Et ce sont des placements qui ont été très intelligemment effectués. Donc sur le plan économique, ce pays, ça n'est pas que les tours de 800 mètres de hauteur, ce ne sont pas que des îles un peu pharaoniques construites sur la mer, comme on le voit à Dubaï, des hôtels de 300 mètres de hauteur. Le plus grand hôtel du monde est à Dubaï. Ça fait partie, c'est la vitrine qui nous fait un petit peu sourire, mais qui en même temps ne gêne personne, sauf que d'ailleurs ça procure beaucoup d'emplois à beaucoup de gens et à beaucoup d'entreprises du monde, et en particulier à des gens du subcontinent indien qui viennent y travailler, qui sont peut-être pas beaucoup payés, mais certainement plus que s'ils restaient dans leur pays. Mais à côté de cela, il y a aussi une économie extrêmement moderne, et dans la crise financière actuelle, je crois que ce pays peut aussi jouer un rôle modérateur et peut rééquilibrer un peu les économies qui se sont laissées aller. Je pense à la nôtre, je pense à celle de tous les pays européens, je pense surtout à celle des États-Unis. Voilà.
Merci Jean-Robert Pitt. Nous retrouverons dans vos chroniques géographie sur Canal Académie avec grand plaisir. À bientôt.
À bientôt. Merci beaucoup.